Ouais, ouais, c'est ça, mais tu sais, le chauffeur, il le dit constamment, ça.
Alors, le titre du colloque est inspiré du livre de l'américaine Judith Butler, intitulé « Troupes dans le genre », paru en France en 2005, et qui continue d'avoir une influence considérable sur les nombreux ouvrages théoriques qui paraissent chaque année sur le sujet. L'ouvrage met en brève l'idée d'une essence féminine et remet en question le rapport soi-disant naturel qui existe entre un sexe biologique et identité genrée. Une des idées fondamentales qu'elle développe est celle d'une performance du genre. Le genre n'est pas un déterminisme biologique, mais un présupposé culturel qui peut être recodé par un travail répétitif et performatif de genre. Pour creuser la question de performance de genre, justement, dans sa dimension matérielle et politique, et soulever certains malentendus que le livre de Butler a suscité, notamment l'idée qu'on pourrait chaque matin changer de genre, ce qu'elle s'est beaucoup prononcée pour dire non, c'est pas de ça qu'il est question, nous allons souhaiter entendre Paul Brocard et Ariane Temkin sur la notion de passing. Alors, Ariane est titulaire d'un master en histoire de l'art à Paris 3, portant sur l'histoire des formes scéniques queer et la culture camp. Elle s'intéresse désormais aux enjeux du queer coding dans les produits de la pop culture contemporaine et aux représentations des sorcières comme figures féministes. Paul Fagianelli Brocard, doctorant à l'université Paris-Ouest Nanterre, s'intéresse à la construction des territoires dans le roman colonial européen du 19e, France, Angleterre et Belgique, et au rapport entre science et fiction dans les divertissements populaires. Il est co-directeur du laboratoire junior théorie et performance de genre, qui mène des recherches queer et féministes à partir de perspectives situées. Alors, le passing est une notion contestée, qui renvoie à des dispositifs vestimentaires et comportementaux de semblance au sein d'une société le plus souvent sexiste et hétéronormée. Le passing est une notion encore relativement peu étudiée en France, elle a une dimension politique dont ils vont nous parler, mais mobilise aussi des questions qui concernent le bijou, théâtralité, divulgation, réfutation de soi, rapport au vrai, faux. Alors, je ne crois pas que cette notion ait encore été étudiée ou saisie dans son rapport à l'ornement, et donc je suis vraiment très content que vous soyez tous les deux venus pour nous en parler. Merci.
Donc, stratégie matérielle du passing, approche subversive, conformiste et stratégique. Donc, d'abord, avant de commencer, on tient à remercier surtout Ben Liniel pour son invitation et Renaud Chantraine et Larissa Cluzet pour la mise en contact. Notre intervention s'inscrit dans la première partie de l'exposition Médusa et donc a pour but d'approfondir les questions de genre liées aux bijoux. C'est une intervention à deux voix qui se veut féministe et s'appuiera sur les théories mais surtout sur les vécus de personnes féminines, queer. Donc queer en français, il y a une traduction qui s'appelle transpédéguine, hein, donc qui reprend les termes insultants pour pas gommer la violence de l'insulte, et trans. Nous nous situons dans une compréhension du genre comme une construction sociale, une performance individuelle et interindividuelle. On va parler du bijou, aussi le bijou comme une des manières de produire le genre. Le bijou a une multitude d'usages, c'est un objet, donc il n'est pas genré en soi. Et on va se situer dans une ère culturelle exclusivement occidentale, donc européenne et d'Amérique du Nord, puisqu'il a d'autres fonctions, d'autres usages dans d'autres endroits du monde, mais ce n'est pas notre place d'en parler. Je sais que ce soit un objet qui n'est pas genre en soi, c'est un objet éminemment genré maintenant de nos jours. Donc il est associé aux femmes, à la féminité, au féminin, et donc c'est un accessoire, un ornement. Cette codépendance du bijou à la féminité est le fruit d'une histoire récente. Dans son texte d'introduction du catalogue Médusa, Ben Liniel rapporte le processus de féminisation du bijou qui est lié à l'avènement d'une bourgeoisie marchande dont les valeurs laborieuses se sont employées à nettoyer le costume masculin de sa fonction d'apparat. On a vu avec Massimo les résurgences de la fonction d'apparat du costume masculin, mais c'est vraiment des exemples qui sont extrêmement marginaux. Le costume masculin va se débarrasser de sa fonction ornementale et d'apparat. Dans les sociétés précapitalistes, les hommes portaient des bijoux qui étaient des marqueurs de pouvoir, des couronnes, des bagues, des colliers. On pouvait même pas parler vraiment de bijoux masculins, puisque cette partition, cette binaire et comme un anachronisme. En fait, c'est la reconstruction d'une binarité qui n'avait pas vraiment lieu à l'époque, puisque le bijou n'avait pas pour fonction de porter le genre, comme c'est maintenant le cas, mais pour fonction de connoter. Ouais, mais pour fonction de connoter le pouvoir. Voilà, et la classe sociale. Voilà, parce que bien sûr, l'histoire de la féminisation du bijou en Europe concerne les classes supérieures, aristocrates, religieuses et bourgeoises. Donc, ce qui va nous intéresser ici, donc dans l'association entre bijou et féminité, donc on va rapidement plonger dans l'imaginaire du bijou tel qu'il est façonné par la pop culture, pour voir quelles sont les propriétés qu'on lui accorde. Donc on va ici se focaliser sur le bijou pop, hein, le bijou contemporain, donc pas sur le bijou d'auteur, sur le côté clinquant, ostentatoire, volontairement faux du bijou. Alors, notre hypothèse, c'est que plus que d'être un ornement de la féminité, le bijou et la féminité dans beaucoup d'œuvres de pop culture entretiennent un rapport de métonymie. C'est-à-dire que c'est la partie pour le tout et le tout pour la partie. C'est-à-dire que, par exemple, si on y repense, beaucoup des héroïnes féminines, par exemple surtout des personnages de méchantes, elles sont fascinées par les bijoux et leur quête principale, au contraire de leurs homologues masculins, c'est souvent pas d'acquérir le pouvoir sur le monde, mais de ravir des bijoux extrêmement précieux. Et donc cette quête va connaître leur vanité, enfin la vanité de leur recherche, et parce que le bijou va comme hériter par ce même mécanisme de métonymie des valeurs qui sont associées à la féminité. C'est-à-dire que le bijou est lui aussi une quête vaine de frivolité, de raffinement, mais qui est totalement inessentielle. Alors que dans une lecture féministe, on pourrait se dire que chercher des bijoux plutôt que le pouvoir sur le monde, c'est plutôt une stratégie, enfin ça revendique plutôt déjà, ça fait appel à un pouvoir local, non pas à un pouvoir hégémonique, et c'est surtout anticapitaliste. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la communication. Donc c'est l'hymne des Material Girls, donc de Marilyn Monroe. Ok. Ok, je me calme. Voilà, et donc c'est les bijoux, ça va être un étendard de la féminité, de ce qu'elle a de absolument, vulgaire, inessentiel, ridicule. Donc c'est l'hymne de Marilyn Monroe, les Diamonds Are Girl's Best Friend, et repris par exemple par Satine, le personnage du Moulin Rouge de Baz Luhrmann. C'est Catwoman aussi qui est folle de bijoux. Et voilà, il y a ce rapport de métonymie entre la féminité et le bijou. Et donc, en fait, presque dans la plupart des œuvres, la fascination pour le bijou est une fascination pour la féminité elle-même. Et donc, ça entretient un rapport en miroir, un rapport spéculaire, bijou et féminité, qui est souvent d'ailleurs pathologisé, hein, comme une quête de vanité, comme l'inessentiel. C'est un pouvoir obsédant. Donc, de ce détour par la pop culture, on va en fait essayer de pousser un peu plus loin le rapport de métonymie que j'ai posé pour penser que le bijou est une prothèse de genre, en fait. Donc, on va se constituer dans une construction du genre comme une technologie qu'on emprunte à la fameuse théoricienne queer Teresa de Lauretis. Et qui a ensuite été reprise par un théoricien comme Paul Preciado dans son livre Testo Junkie, donc qui font du genre une matrice qui est construite par une série de prothèses, en fait. Donc les vêtements sont des prothèses, les perruques sont des prothèses, le maquillage est une prothèse, et les bijoux en sont une parmi d'autres. Et donc le bijou va ensuite pouvoir produire la féminité. Et donc c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce rapport, donc c'est l'usage que peuvent faire certaines personnes et ancrer. Et alors encore une fois, c'est pas une histoire là spécialement individuelle. Hein, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect collectif, communautaire de revendication de ces pratiques. Mais le bijou va être un support donc des jeux identitaires dont Ben parlait en ouverture du colloque. Donc pourquoi rechercher la féminité? Dans le cas des femmes, dans le cas des personnes qui sont nées femmes, assignées femmes à la naissance, ça semble comme une évidence. Les femmes ont intérêt à produire de la féminité. C'est une aspiration qui est comprise comme naturelle. Mais on va, de fait de porter des bijoux, on pourra penser en fait que c'est un travail de genre. de porter des bijoux et de se produire comme une personne féminine. Et dans le cas des hommes, donc ça c'est, on fait une bipartition binaire qu'on va tout de suite complexifier, mais c'est juste pour simplifier au début. Donc dans le cas des hommes, donc pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à produire de la féminité ? Donc on va penser que ça va être d'abord pour se dissocier, enfin pour une porte de sortie aisée hors de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire de la masculinité hétérosexuelle, cisgenre, blanche. Et donc ça va être donc soit le cas de raffiner sa masculinité, donc ça c'est par exemple tout ce qui a un rapport avec les pratiques des dandys, et ou de voir connoter l'homosexualité. Mais là encore, on va être dans une ligne de partition où, en fait, ce jeu-là va être... et ça, on en parlera surtout plus tard à propos de la culture camp, mais va être un jeu qui va être possible, une reconnaissance par les pairs, mais pas forcément par les publics hétérosexuels. Donc c'est ce jeu de regard, ce que ça peut connoter et qui va comprendre les signaux qui vont nous intéresser. Voilà, donc ça c'était l'introduction, et maintenant je vais passer la parole à Paul qui va nous parler plus précisément du passing.
Merci. Alors, je ne suis pas plus à l'aise avec le micro, je vais essayer de faire en sorte que ce soit fluide et pas trop désagréable à écouter. Alors, comme le disait Ben, pour introduire notre proposition, le but de notre intervention ici, c'est de revenir sur une articulation entre ce qu'on va désigner comme étant une stratégie matérielle de survie dans les parcours trans, puisque c'est à cela qu'on va s'intéresser aujourd'hui, qui passe par la notion de passing, et un discours identitaire. Pour se demander comment, dans certains cas, cette articulation, elle peut répondre aux normes cis-sexistes de la société, et dans d'autres, servir d'espace de production pour des féminités qu'on va décrire comme étant dissidentes. Alors, pour reprendre ce que disait Ariane au tout début, dans son introduction, notre proposition, s'appuie sur un savoir qui est situé, un savoir qui est expérientiel, c'est-à-dire qu'on va se situer toutes les deux sur ce gradient de féminité dissidente, de féminité dégradée, de féminité inauthentique. Donc voilà, c'était pour insister sur le fait qu'on est dans une forme de savoir situé qui donc vous propose une perspective nécessairement biaisée sur cette question de passing. Alors, là, ce que je vais faire, c'est essayer de vous proposer une définition la plus maniable possible de ce qu'est le passing dans un contexte de transition de genre. Faire en sorte que ce soit le moins aride et le plus digeste possible. Hein. On va essayer. Alors, le but de ce moment d'introduction, ça va être de défaire une certaine rhétorique qu'on associe à la question du passing. Une certaine rhétorique du vrai genre, du genre authentique, du genre essentiel. En fait, on va voir comment... ce travail du passing, qui est un travail sur l'apparat du genre, sur sa performance, peut se mettre en accord avec un discours sur le moi profond, sur le moi essentiel, dans une rhétorique du genre vrai. Alors, le passing, ça vient d'où ? Donc, c'est un terme qui vient du contexte anglophone, ça vient du verbe to pass, qui se traduirait en fait très facilement en français par passer pour, et ça retranscrit un certain nombre d'essences qui sont pertinents pour nous ici. Et donc le passing, ça va désigner l'ensemble des stratégies matérielles déployées par les personnes trans pour passer, entre guillemets, dans le genre voulu, dans le genre dit d'arrivée, dans la conception d'un parcours dynamique de transition de genre. Autrement dit, il va s'agir de performer une masculinité ou une féminité de manière plus ou moins convaincante. On va voir ce que ça veut dire après. Donc il va s'agir, pour une personne assignée femme à la naissance, de performer une masculinité dite convaincante, et pour une personne assignée homme à la naissance, de performer une masculinité tout aussi convaincante à l'issue d'une transition de genre. Ça va jusque-là ? Alors, cette première définition, ça soulève déjà un certain nombre de questions, puisque, bon, je vous le répète, on est ici c'est un terme qui peut s'employer dans d'autres contextes, et nous, on va l'analyser dans un contexte de transition de genre. On parlera donc du passing d'une personne trans pour désigner sa capacité, sa façon de passer pour une personne cisgenre. C'est là que je vous disais qu'il s'agissait d'une réponse à une société qui est dite cis-sexiste. Je me l'écris, cis-sexiste, pour que ça change. Donc, c'est une réponse à une forme de violence sociale, donc c'est une stratégie de survie.
Il y a donc un enjeu de survie au travail du passing. Ça va apparaître après, je pense. Donc il s'agit, à travers les stratégies du passing, d'atténuer la violence sociale qui marque la majorité des parcours trans. Et en fait, le passing, ça va amener ces parcours ou ces expressions de genre à tenter de se fondre dans une expression de genre qui est calquée sur celle des femmes ou des hommes cisgenres. Donc cisgenre étant conçu comme le terme qu'on emploie pour désigner les personnes non trans. Alors, les éléments du passing, c'est quoi ? Ça a des supports extrêmement matériels, comme la voix, le maquillage, l'habillement, la tenue du corps ou sa chair lui-même, et qui va donc amener les personnes trans à gommer le plus possible, dans sa perspective de passé, leur transitude, afin de s'assimiler au panel des expressions de genre qui sont socialement acceptables. Qui sont des genres qui sont socialement policés, qui sont des expressions de genre qui sont bourgeoises. Donc ça correspond à des féminités et à des masculinités bourgeoises et socialement policées. Donc, avoir un bon ou un mauvais passing, ça va s'apprécier à travers cette comparaison des expressions de genre des personnes trans à une norme cisgenre. Donc, c'est là qu'en fait, le passing en tant que stratégie matérielle, ça apparaît comme une stratégie qui va permettre aux personnes trans de naviguer une société qu'on décrira comme étant profondément cis-sexiste. Enfin, c'est apparu entre-temps. Donc, qui est un terme qui est constitué de ce préfixe cis qui va désigner les personnes non trans et le mot le sexisme qui va désigner la violence sociale. Cis, ça veut dire
sexe. Ouais. Le même, c'est
par
opposé à trans, qui
veut dire
traverser.
C'est bon, ça va? Ouais, donc en fait, on va parler cis, c'est juste après l'abréviation de cisgenre, ok? Parce que là, on est d'accord. Donc, en fait, une personne cisgenre, ça va juste désigner une personne qui n'est pas trans. Voilà, c'est juste une façon de désigner une situation sociale qui n'est pas celle d'une personne trans. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir un mot spécifique pour désigner ce qui est une norme en fait, et pas juste se focaliser sur les parcours transgenres. Ça va ? Ok. Donc, je disais, le passing, c'est ce qui va permettre en tant que stratégie matérielle aux personnes trans de naviguer une société qui est sexiste, et qui va donc en dévier la violence. Donc c'est une violence qui est systémique et qui vient reléguer les personnes trans et leurs expressions de genre qui sont de toute façon toujours imparfaites aux yeux de ces normes cis-sexistes à la marge. Donc ce passing stratégique, il vise aussi à tromper quelque part le regard de ce système social cis-sexiste qui vise à reléguer les genres trans à la marge.
Ah, c'est
sympa. Oui, je vais essayer de parler plus fort. Alors, le cis-sexisme, ce sera alors conçu comme un système de validation et de disqualification appliqué au genre des personnes trans, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui sont non conformes dans le genre. Donc, ça se comprend comme étant un ensemble de contraintes, de limites et de sanctions aussi très concrètement tangibles pour les personnes concernées, qui est un système social qui est notamment alimenté par des notions de respectabilité. C'est pour ça que je vous parlais de genre policier ou de genre bourgeois, d'expression de genre bourgeois tout à l'heure. Et donc c'est traduit par une violence sociale extrêmement concrète. Donc ça apparaît comme étant un système hiérarchique qui différencie les corps trans des corps cisgenres, en plaçant ces derniers, je veux dire les personnes cisgenres, hein, dans une position plus ou moins consciente de lecture du passing des personnes trans. Donc, autre élément de définition, le passing, on va le définir comme étant une notion relationnelle. C'est-à-dire que le passing s'active dans une situation d'interaction, dans une situation de lecture du genre de la personne qui est en face de nous. Donc le résultat de cette lecture, une observation très simple d'un ensemble de signes, c'est-à-dire de l'ensemble de ce qui va dépasser d'une expression de genre attendue chez un homme ou une femme, l'issue de cette situation de lecture, ça peut être la validation du passing, et donc la validation d'un genre qui est plutôt cis-normé, qui est acceptable et digeste pour un système social de genre qui est fondé sur un binarisme que nous connaissons, ou la disqualification, c'est ce à quoi on va s'intéresser ensuite. Donc de ce que Julia Serrano, qui est une théoricienne trans, appelle le privilège cissexuel. Donc cette faculté qu'ont les personnes cisgenres de lire et de valider ou non les genres des personnes transgenres, va découler donc cette capacité de décider de la validité d'un genre, d'après son observation, et donc aussi, on va en découler le pouvoir concret de déclasser un ensemble de genres non conformes. Donc, dans le cas où un genre se trouverait disqualifié, donc dans le cas d'un mauvais passing, on a un renvoi quasi automatique de la personne en question, de la personne trans, à une apparence, c'est-à-dire que cette personne serait déguisée, voire pire, travestie, et c'est un renvoi à une superficialité, à une apparence qui coïncide avec une déshumanisation. Donc ainsi, celui ou celle qui ne passe pas dans le genre choisi, dans le genre d'arrivée, entre guillemets, perd la capacité de s'intégrer à une société basée sur un binarisme de genre. Donc socialement, c'est la sanction pour, après cette épreuve du passing, dans le cas d'un mauvais passing, avec son lot d'insultes, de violences et de mépris, adossé à des conséquences matérielles très violentes. Donc ce qui va nous intéresser... La principale chose qui va nous intéresser dans le contexte aussi de ce lien avec la question du bijou, de l'ornement et de l'apparat, c'est bien la notion d'illusion et de déguisement, qui est au cœur en fait de ce système de validation des genres qui passe par le passing. En fait, le terme lui-même passé pour renvoie à une dichotomie entre le vrai, l'authentique et donc le valable, et le faux, le mensonge. Donc en fait, les stratégies du passing, elles vont renvoyer à la notion de tromperie, de parade, quelle que soit la rhétorique dans laquelle on place cette stratégie. Donc dans un cas, il va s'agir d'une parade, d'une stratégie pour tromper la violence d'un système cissexiste. Dans un autre cas, donc dans le cas de la formulation d'une attaque transphobe, hein, on va renvoyer ce passing à la simple question du mensonge, c'est-à-dire que l'expression de genre sera renvoyée à un déguisement, à une tromperie, et donc l'ensemble de la personne sera renvoyée à une tentative de fraude, en fait. Hein, c'est ça qui sera socialement sanctionné. Donc en fait, comme la notion de passing, elle repose sur une dissociation, sur la dissociation entre le fond, la vérité du genre, son essence, son authenticité, qui serait donc intérieure, et donc qui est plutôt, dans ce cas-là, une vérité du sexe, et la forme, le déguisement, le travestissement, tout ce qui va relever de l'apparat ou de l'apparence. Donc on voit bien que ces stratégies matérielles qui, en fait, sont sémantiquement neutres, hein, un peu comme Ariane l'évoquait au début de l'introduction, c'est une stratégie qui se connote en fonction du discours à laquelle elle se connecte. On a une possibilité pour ces stratégies matérielles du passing de s'insérer dans une production d'un genre essentiel, de la production d'une essentialisation du genre, qui passe par cette dissociation entre essence et apparence. Donc on peut tout à fait le situer dans une rhétorique essentialiste, hein, cette question du passing, et c'est la principale critique qui lui est faite, notamment par les personnes concernées elles-mêmes, puisque même s'il ne s'agit pas, évidemment pas de porter un jugement de valeur sur la façon dont cette question du passing s'articule aux narrations trans elles-mêmes, on a de manière assez récurrente cette articulation de la question du passing à une volonté de faire coïncider son moi profond et l'apparence extérieure. Donc il renvoie toujours à cette espèce de dichotomie de laquelle on a du mal à sortir, entre la vérité du genre qui serait intérieure, profonde et souvent inatteignable, et son apparence extérieure. Ça va ? Donc c'est cette dichotomie entre essence et apparence qui va mener à la disqualification des genres, des personnes trans, comme étant des faux, des mensonges ou des déguisements. On a encore 15 minutes ? Bon, je vais accélérer. On est dans une rhétorique qui va donc réifier le genre comme étant un objet ou non atteignable dans le cadre d'un parcours trans. On est donc dans un ensemble de narrations qui sont essentialistes et qui sont articulées à la question, à l'existence fictive d'un vrai genre. Donc on va tenter ici de changer le paradigme de ce discours identitaire en se détachant de cette dichotomie entre apparence et essence, afin de resituer le genre et l'ensemble des stratégies qui y sont liées sur le plan d'une matérialité, celle des objets particulièrement présents dans la culture ken dont Ariane va nous parler. On va ainsi essayer de s'attacher à un ensemble de féminités disqualifiées par cette question du passing, des féminités dégradées, inauthentiques, celles des folles, des personnes queer et des personnes trans.
Alors, je ne sais pas si vous êtes ici familier ou familière avec la notion, enfin, le terme de camp. Bon, j'imagine, comme il y a beaucoup de personnes anglophones, que certaines le sont. Donc, le terme camp, c'est une notion qui est extrêmement dure à définir. Donc, c'est une notion esthético-politique assez confidentielle qui est surtout connue en Amérique du Nord et dans le monde anglophone parce qu'elle a été théorisée en 1964 par Susan Sontag dans ses Notes on Camp. Mais ça vient d'un terme, d'un mot français. Donc, camp, ça vient de camper. Le verbe français, donc soit tenir une position, donc c'est un lexique militaire, soit répéter un rôle, ça vient du lexique théâtral. Ça vient d'une culture théâtrale en fait. Et donc le terme camp est attaché à la culture à la fois de la nuit, au monde de la nuit, et surtout à une culture de cabaret, donc qui mettait beaucoup l'accent sur le travestissement. Et donc c'est toute une subculture, mais c'est une notion donc d'esthétique sans œuvre qui vient qualifier des corps, des costumes, des conversations, des attitudes, tout ce qui est évanescent et inessentiel, mais qui va l'embrasser et qui en va faire de ça son art, sa valeur, son intérêt en fait. Tout, donc comme pour délaisser ces idées d'authenticité, qui on le voit, sont des notions politiques extrêmement connotées moralement et socialement. Je vais prendre une définition de Jean-Yves Le Talec. Donc, parfois qualifié de subculture de folle, le camp se présente en fait comme une notion bien plus complexe, à l'origine d'un art de l'apparence, en pratique une forme de lien et de langage social, de résistance culturelle et de stratégie politique. Le camp est au sens large une relation sociale qui met en jeu des personnes, des objets et l'homosexualité. Donc l'homosexualité, c'est ici un terme restrictif pour parler aussi de déviance de genre, non-conformance dans le genre, parcours trans. Il se caractérise par l'incongruité, la théâtralité et l'humour. Donc esthétiquement, on va plus tard vous montrer des vidéos. Donc c'est des esthétiques de l'outrance qui sont à rapprocher du kitsch, et donc tout ce qui se rapporte au low art, donc à une culture qui est vraiment dégradée, à l'artificiel, avec un grand degré d'ironie. Mais donc le camp a donc on lui reproche, comme à tout ce qu'on vient tout ce dont on vient de parler, son inessentialité, sa vanité, parce que c'est une culture de cabaret, aussi parce que c'est une culture de la nuit. Donc les personnes qui vivent ou qui pratiquent ou qui performent de manière camp ont souvent aussi pas l'accès pour parler de leur pratique en fait, mais donc ça va être souvent repris plutôt par des personnes hétérosexuelles qui vont théoriser dessus, qui vont lui enlever totalement, qui vont lui enlever sa dimension politique, parce que c'est une stratégie de survie à l'époque. Donc dans les années 1900 et 1930, lorsque la culture des cabarets naît à Paris et à Berlin, c'était une manière pour les personnes d'être out entre elles, donc out entre pairs, out comme personne homosexuelle, pour reprendre les termes de l'époque, et in à la fois pour se protéger des violences hétérosexuelles, enfin des violences de la société, parce que évidemment c'était une sexualité et des genres qui sont criminalisés. Hein. Je vous rappelle que il y avait le procès d'Oscar Wilde là, on a parlé d'Oscar Wilde, mais en 1895 il y a le procès d'Oscar Wilde, qui est sanctionné pour avoir manifesté et entretenu des relations homosexuelles. C'est une culture comme le passing, en fait, le camp est un instrument, une stratégie de survie pour les personnes queer, pour pouvoir avoir un accès au plaisir, mais tout en étant pas reconnu par les personnes hétérosexuelles. Donc c'est là le jeu en fait de reconnaissance et de cachet dont on parlait au début. Et donc pour l'illisibilité pour dans la société. Et donc c'est un art du double entendre, en fait ça va être des codes de langage, féminisation par exemple, ou alors voilà, tout un jeu de sous-entendus de double entendre qui va être mis en place avec aussi des codes de vêtements pour faire comprendre l'appartenance à cette subculture. Et donc les performances camp qui sont souvent donc dans la culture des cabarets dont je vous parlais, des shows de travestissement qui sont ostentatoires, elles ont souvent été balayées comme juste du côté du divertissement, mais en fait l'objet même de la parodie, ce que parodie les cultures camp, c'est-à-dire l'idée à la fois de la binarité, de la binarité du genre, le processus d'assignation de genre à la naissance, le mythe de la complémentarité du désir, tout ça, tout ce qui en fait c'est l'objet de la moquerie des performances camp a toujours été complètement éludé, comme si en fait parce que c'était des critiques qui se faisaient avec la parodie, les motifs étaient eux-mêmes parodiques, alors que non, enfin il y a quand même un propos en général assez sérieux. Donc en fait ça a été souvent complètement décrédibilisé. Mais parce que aussi c'est facile de pas entendre les critiques qui ont été faites parce que ça prenait le détour de la parodie. Et donc l'amour du faux, l'amour de tout ce qui est faux inessentiel, donc les prothèses avec les fossiles, les faux ongles, la perruque, le maquillage, les talons, les strass, les bijoux, les paillettes, qui donc sont renvoyés à l'inessentiel, ici prennent de la valeur et sont la valeur première en fait. Et donc c'est un retournement, je ne sais pas si vous comprenez ce mouvement de retournement, et donc c'est ça qui produit de la valeur. Donc par exemple, dans l'exposition Médusa, il y a l'emblème, un emblème qu'aime par excellence, c'est le gros cœur de Liberace, par Swarovski. Et donc c'est l'inessentiel ou le faux qui devient, qui est exhibé et qui est producteur de valeur et qui remplace... Enfin, qui n'essaye pas de remplacer, mais justement qui va essayer d'enlever cette idée d'original, d'originalité. Voilà, donc comme on doit faire assez vite, je pense que je vais repasser le micro à Paul et puis on va continuer de complexifier ces idées tout en s'appuyant sur des documents visuels, enfin, parce que là c'est peut-être un petit peu aride.
Merci. Alors oui, je vais essayer d'aller vite. On est sur ces questions à travers le passage par la culture camp, sur ces questions de frivolité. En fait, l'idée, c'est de venir se replacer dans une compréhension du genre qui est uniquement une surface. Donc c'est là qu'on veut revenir et qui, en fait, les stratégies des cultures camp et les stratégies matérielles du passing sont les mêmes. Hein. Elles travaillent les mêmes éléments, les mêmes apparats dans des stratégies de survie qui peuvent diverger, mais qui sont... toujours inscrite dans ce processus relationnel. Alors, ce à quoi on va s'intéresser ici, ce sont les formes de performance du genre qui relèvent des esthétiques femmes. Donc ça, c'est un terme qui va venir du milieu anglophone, bien que le terme soit français à la base, mais qui, par le détour d'une langue étrangère, donc pour les milieux queer et trans anglophones, permet de dénaturaliser le féminin. Donc on parlera d'esthétique femme au lieu de parler de women, par exemple. Donc nous, on va juste adapter notre prononciation et reprendre ce terme pour garder cette idée de dénaturalisation et de désessentialisation du féminin. Et on va vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, une esthétique femme camp, surtravaillée. Et donc vous allez voir dans un extrait vidéo que je vais vous montrer. Donc c'est un clip de la chanteuse Ali X, qui travaille en miroir avec une performeuse, une esthétique camp, celle de la vampe. Ouais. Bon, j'ai pas de son, mais c'est pas grave, l'intérêt c'est plus visuel qu'autre chose. Ça marche, hein? Normalement, c'est un intermède musical, mais vu que ça fonctionne pas trop là, du coup. I can't be unfair. C'est un peu brutal, mais moi je vais continuer à parler, puis comme ça vous avez quelque chose à regarder si c'est trop hard arrive. Donc ici on est bien dans un travail sur une performance visuelle de féminité camp qui se répond par un jeu d'apparat en miroir. Alors je vous ai pas dit qui était l'autre personne qui était avec la chanteuse, justement parce que exercice pratique, Violette Tchachki qui est ici, c'est une personne qui est drag queen. Donc sur la question du passing, c'est hyper intéressant parce que donc Violette Tchachki, c'est une personne queer hein, qui s'identifie comme personne femme sans explicitement se revendiquer d'un parcours trans, qui est donc une performance drag et qui ici est en drag dans une présentation de genre qui est volontairement identique à celle de la chanteuse. Donc, en fait, je vous le dis après, parce que du coup, l'idée, c'est d'induire chez vous une situation de lecture du passing. Puisque, une fois que je vous ai dit que c'était une drag queen, c'est-à-dire que j'ai mis l'accent sur le fait que ce soit une question d'apparat, en fait, que ce soit un travail de féminité camp basé sur l'apparat, sur la surface, on a tendance, quasi spontanément, hein, mais c'est un réflexe conditionné, à réarticuler quasi automatiquement cette présentation de genre femme à la question du dessous, à savoir qui est essentiellement cette personne qui est Violette Tchachki. Et donc là, en fait, il apparaît qu'en fait, bah, c'est une performance de genre qui passe. Hein. On dirait que Violette a un bon passing. Elle est convaincante dans sa performance de féminité. C'est donc la réaction classique d'une situation de lecture. Ah bah, j'aurais jamais deviné, ou ça se voit pas. Mais qui est voilà, quelque chose qui est tout à fait classique dans une situation de lecture du passing qui débouche sur la lecture d'un bon passing ou une validation du genre exprimé. Alors ici, l'idée, c'est bien de revenir à un niveau de superficialité sur un travail de féminité camp qui est ici basé en miroir et qui met sur un plan tout à fait similaire la performeuse, la chanteuse cisgenre et notre performeuse Violette Tchachki. Donc ils sont dans un travail de l'identité femme qui les place sur un niveau jumeau. Donc, pour finir et continuer avec les vidéos, on va se concentrer maintenant sur les questions de perméabilité, justement, entre parcours trans et performance drag, pour poursuivre un peu ce que Ben introduisait à travers Judith Butler. Donc, rapidement, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que les performances drag, ou le moment de performance, il est conçu comme étant déterminé dans le temps. C'est-à-dire que c'est un moment qui est ponctuel, c'est le moment de la fête, c'est le moment du théâtre. Donc, les moments de cette élaboration performative du genre, conçus comme une très haute performance, sont cloisonnés. Mais si le temps de la performance drag est limité dans le temps, ça ne veut pas dire qu'il est coupé du reste du temps social. Puisqu'en fait, les travaux, notamment du Judith Butler, ont montré, à travers cet exemple des drag queens, que la question de la performance pouvait s'étendre à n'importe quel rituel, à n'importe quelle performance de féminité ou de masculinité. C'est-à-dire que l'ensemble du genre est performance et n'est que performance. Donc on retrouve cette question de la désessentialisation du genre. Donc cette question de la performance, elle touche tous les rituels liés au genre. C'est pour ça que c'est sans doute intéressant de suivre Sam Bourset qui parle des ateliers drag et des performances drag comme des expériences ou des expérimentations transgenres qui permettent en fait de faire le lien entre ce qui se joue dans la brutale dénaturalisation d'un genre sur scène et le reste du temps social qui ne s'abstrait pas dans le temps de la performance. Donc non seulement ça peut être des éléments tout à fait déclencheurs si on envisage des parcours dynamiques de transition, mais c'est, en fait ce qui va varier pour nous, c'est la densité de la performance. Du moment de la fête au temps social quotidien, c'est juste la densité de la performance. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est les performances FEM, mais c'est la densité du maquillage et la longueur des ongles qui va varier. C'est-à-dire que c'est le volume, en fait, c'est le volume de cette performance qui va s'adapter à des contextes relationnels qui sont variables. C'est pour ça qu'on parle de manière assez répétitive du fait que ce sont des stratégies de survie. Et dans ces stratégies, il y a une intelligence du contexte qui doit nécessairement être compris pour adapter, en fait, la performance des genres proposés dans ces esthétiques scènes. Alors, ce par quoi on voulait terminer, c'est peut-être un passage sur la matérialité de ces stratégies-là. On a beaucoup insisté sur le toc, le faux, l'ornement à travers ces questions de culture camp. Donc je vais vous proposer d'autres vidéos de performance FEM. Et donc celle-ci, je les ai tirées, je ne suis pas allé chercher très loin, j'avoue. Je suis allé les chercher dans RuPaul's Drag Race. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Donc voilà, rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une émission de télé nord-américaine qui est une compétition de drag queen, qui est donc chapeautée par RuPaul, qui est une des drag queens états-uniennes les plus connues, avec un parcours extrêmement long dans l'industrie du divertissement, dans l'industrie de la musique, dans l'industrie télévisuelle. Et donc c'est une compétition qui voit s'affronter, entre guillemets, des performeuses qui vont être éliminées de semaine en semaine autour de défis. Les défis de cette émission vont reposer sur des parodies, en fait. L'émission met à disposition des candidats et des candidates du matériel pour produire de la parodie, et produire de la parodie de genre, puisqu'il va s'agir de faire une parodie de publicité pour parfum, de parodier un clip, de parodier un personnage de série, etc. Ce sont des émissions qui culminent avec un moment comme celui que je vais vous montrer là, qui est un moment de lip-sync, qui est basiquement un moment de playback, c'est-à-dire que ce qui va départager les concurrentes, c'est un moment où il va falloir camper le personnage d'une chanteuse dans une performance de genre plus ou moins travaillée, plus ou moins convaincante. Donc, c'est vraiment censé être avec la manière qu'a cette émission de normaliser aussi les performances drag et les performeuses, c'est censé être l'épreuve de couronnement. Donc là, moi, je vous propose de regarder le travail sur l'ornement de deux performeuses qui sont Trinity Taylor, qui est la rousse, et Peppermint, qui est habillée en bleu. Pour conclure rapidement, ici on est vraiment dans une scénographie de la très haute performance FEM. Donc ce qui va m'intéresser, c'est le travail particulièrement de Peppermint, hein, sur son costume, en fait, son apparat, l'ornement en fait qu'elle fait de son propre genre. Puisqu'on a ici, elle a travaillé en fait sa robe de soirée comme peut-être une inverse de la robe de créateur, c'est-à-dire que tout en fait n'est qu'un élément postiche, qu'un élément faux, qu'un ornement qui peut se retirer. Et c'est tout l'intérêt de la performance justement. Donc en fait, ce sur quoi va jouer Peppermint, c'est une nudité qui est jamais révélée. Le nu, la peau ou le dessous du costume, spontanément associé à l'inverse de la performance drag, c'est-à-dire à la vraie personne, au vrai genre. Et donc au vrai corps, le corps sans apparat, se dérobe pour laisser apparaître d'autres vêtements, d'autres éléments de costume. Et donc c'est exactement la même chose avec, avec la perruque qui lui permet de varier d'une expérience de féminité à l'autre sans jamais atteindre ce point de dévoilement qu'on attendrait. Et c'est ce renversement-là qui est intéressant. Donc on est ici dans un jeu avec une surface que l'on ne dépasse jamais, puisque cette surface et le genre est une performance de surface. Cette surface est celle d'une identité femme sans essence et sans vérité, qui embrasse donc plutôt son caractère performatif comme une richesse plutôt que comme une limite.
Sur le parti pris de se représenter en chef comme par la dimension parodique assumée en fait, de la performance drag, mettant de côté la dimension inspirationnelle. Et donc, avec quelqu'un qu'on a interrogé avec Anita, chez une drag à San Francisco, qui disait aussi la personne à qui je veux ressembler, c'est ma tante. Et donc, il y avait cette dimension qui était oui, il y a un travail d'apparence qui s'est fait progressivement, mais il y avait aussi cette dimension. D'aspiration, en fait. Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a dans les performances drag, dans les déductives performances drag, qui sont une manière de se placer par rapport à ce rapport entre la parodie et l'aspiration?
Oui, alors je pense que c'est quand même très c'est assez différent aussi pour les drag queens, hein, c'est pas du tout un univers qui est homogène non plus. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que les féminités que vont performer les drag queens sont aussi très très diverses. Enfin, voilà, et donc cette personne aspirait à ressembler à sa tante. Ici, on a quelqu'un qui ressemble plutôt à une catcheuse. Mais je veux dire, les univers mobilisés par les drag queens sont très différents. Et donc, on a des performances qui sont plus femmes ou d'autres qui sont plus butch femmes. Et je veux dire, en fait, le spectre des féminités est extrêmement divers. Et c'est ça aussi qui est intéressant de constater, c'est que, les esthétiques femmes, elles sont elles-mêmes extrêmement diverses et elles s'appuient à beaucoup d'autres, et elles sont inspirées de beaucoup de points et de localités différentes. Et c'est pas seulement la star de cinéma qui fait rêver ou. Voilà, il y a là quelqu'un qui ressemble à une catcheuse, mais il y en a beaucoup qui vont performer des féminités qui sont à la rigueur, qui ont des intersections avec de classes complètement différentes. Enfin, voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait, il y a une diversité en fait de ce réseau d'images en fonction des performeuses. Après, la question que tu poses, ça renvoie aussi à cette question de l'aspiration. Pour moi, ça renvoie aussi, ça nous fait nous éloigner aussi de cette question de la surface, de ce que produit la surface, parce que c'est aussi replacer cette question-là dans un parcours identitaire qui est plus dynamique, qui est plus dans une narration qui est peut-être plus large. Et du coup, c'est pas seulement. C'est pas seulement une question qui est liée à la performance de surface, à ce que peut produire la surface en termes de performance de genre. C'est aussi fonction de la narration propre et de l'identité propre de chaque performeuse et de son parcours.
Oui, mais enfin, je reviens là-dessus aussi parce qu'il y a eu des critiques féministes faites au drag sur le fait que ça renvoyait une dimension essentialiste de la féminité, qui serait la destination de soi.
Oui, alors il y a eu effectivement il y a des controverses féministes sur les drag queens, il y en a pléthore. c'est sûr. Alors donc, d'un côté, on a un petit point féministe, on a donc Judith Butler qui va faire donc de la drag queen l'élément, enfin comme l'exemple pivot de son livre Trouble dans le genre, et qui va vraiment l'avoir comme un exemple de la construction sociale du genre. Et puis on a beaucoup de féministes qui vont reprocher, voilà, des féministes qui s'inscriraient dans des mouvances plus matérialistes, qui vont beaucoup insister sur la misogynie, la misogynie de la culture drag queen. Mais alors, bah, en fait, souvent, il y a aussi, enfin, pour ces féministes-là, les féministes matérialistes, il y a des critiques qui sont totalement motivées parce qu'il y a effectivement aussi beaucoup de misogynie parfois dans la culture drag queen, mais il y a aussi beaucoup de femme-phobie, en fait, dans les critiques des féministes à l'égard des drag queens. C'est-à-dire que c'est va être reproché une part... la part de la féminité exubérante, une part de féminité qui est exubérante, qui est ostentatoire, mais donc c'est un rapport qui est encore plus compliqué, parce que aussi, qui fait ses reproches, bon, ça peut être par exemple des personnes universitaires qui vont avoir, qui vont pas être dans les mêmes performances de féminité et qui vont elles-mêmes, avoir des stratégies des stratégies qui sont différentes, mais qui vont pas, leur reproche en fait envers la culture drag queen et pas exemple de femmephobie et de misogynie aussi internalisée souvent, et aussi vont pas voir que souvent ça va s'articuler à des parcours trans. Et maintenant, la plupart des féministes qui sont énervées contre le drag queen, c'est aussi des féministes terses, c'est des féministes extrêmement transphobes, voilà, qui voient pas la question de surface, de porosité aussi en fait entre culture drag queen, entre parcours trans et entre personnes qui sont parcours de non-conformité dans le genre. Donc voilà, faut faire certaines critiques sont effectivement comme légitimes, justifiées. Après, c'est pas à nous de dire aussi non plus, mais il y a aussi beaucoup, il peut y avoir beaucoup de femmephobie dans ces critiques-là, et puis il peut y avoir aussi, voilà, beaucoup maintenant, en tout cas, ces féministes-là, en général, c'est des féministes assez transmisogynes. Oui, mais alors après, oui, si, il y a une histoire de génération, mais pas que, parce qu'il y a quand même des féministes des années, des vagues antérieures de féministes, mais après c'est aussi un découpage de l'histoire qui est pas, qui est plus complexe en fait, mais on va découper le féminisme par vagues, mais même c'est pas en fait très... c'est plus complexe que ça, mais disons que oui, il peut y avoir des aspects générationnels, mais il y a quand même des féministes qui ont su s'actualiser, et aussi qui étaient elles-mêmes toujours, qui sont toujours été dans les cultures graves, ou qui avaient qui ont des amis qui étaient des personnes transmises. Enfin, c'est aussi genre effectivement où est-ce que cette personne est placée, et quel est son réseau affinitaire. Le féministe peut aussi ressembler beaucoup aux gens qu'on côtoie. Donc effectivement, si on est une personne qui est complètement coupée des réalités des personnes queer, parce qu'il y a aussi problématique des féministes qui sont des féministes hétérosexuelles qui vont avoir qui peuvent avoir des compréhensions du genre différentes de celles des féministes queer, des féministes lesbiennes. Voilà, c'est vraiment un réseau d'influence, c'est très compliqué. Les féministes sont extrêmement divers, mais il y a des personnes qui ont tout à fait su s'actualiser, il y en a d'autres qui restent sur des positions femmephobes et transmisogynes et transphobes en général. Je sais pas.
So I want to come back to this notion of pathing, this concept of pathing. And pathing, the idea of pathing is something that is coming from race theory, Fennel, et cetera, et cetera. And I wonder if you might speak a little bit in terms of the argument you laid out, if you might speak a little bit about the limits of pathing, because there's not just one kind of femininity. And with that, there are different markers of femininity that come from other cultural sources. And those are not necessarily going to be legible on RuPaul's Drag Race. Certain dance moves or gestures that come from Indian Bollywood movies, for example, or things like that. So I wonder if you could speak to that a little bit, that limit of the pathway. And it does have to do, and I am racializing the conversation, but I think that's an important place to I want to hear what you're thinking about.
En devant la question des sables, une méthode de la question de la question des limites éventuelles de cette notion de passing, et notamment dans cette dimension raciale dans le contexte des compétitions de football.
Je vais répondre en français, ce sera plus simple, désolé. Mais merci d'avoir posé la question, parce qu'en fait, oui, là, on s'est situé dans une approche qui est blanche du passing. Et en effet, c'est ce que je pense qu'il faut faire remonter le travail à l'ensemble des constructions de genre qui sont socialement acceptables pour la norme cis-sexiste. Et ce sont des constructions de genre qui sont enracinées dans la blanchité. Et d'ailleurs, c'est une erreur de ma part de ne pas l'avoir mentionné. Mais en effet, c'est les formes de féminité qui sont acceptables. De toute façon, elles sont a priori blanches. Et la question du passing, c'est les limites ressenties violemment. Comment je pourrais dire ça Donc, l'épreuve du passing se passe nécessairement moins bien, je pense, quand on a une personne trans racialisée. Dans une situation de lecture, puisque les performances de genre, elles sont nécessairement lues au prisme de la société cis-sexiste, qui est un système aussi, un système social qui est articulé au patriarcat et au capitalisme, qui sont voilà, marqués par leur blanchité. Je ne sais pas si j'entends ces éléments, c'est très formulaire, mais...
J'ai une question avec une petite anecdote personnelle, parce que moi j'aime beaucoup les spectacles de drag queen transgenre, ou bon, comment on les appelle. Par exemple, je suis dans Arthur, à la Côte, à la Club Saint-Louis, il y en a eu beaucoup, etc. etc. Moi j'ai remarqué suivante que les artistes qui sont sur scène, ils sont appréciés par le public, hétérosexuel, de base, comme vous appelez tout à l'heure, cis-sexiste. Ils sont presque autant qu'artistes, ils sont presque autant que clowns, parfois. Mais, et on les aime puisqu'ils sont là, ils se produisent sur une scène. Mais une fois qu'ils descendent sur scène, ils sont mal traités, en gros. Ils sont mal jugés, ils sont mal vus, etc. Donc ils sont acceptables, tant qu'ils sont sur scène, pour n'importe quoi, on peut mettre sur scène, de toute façon, c'est accepté puisqu'ils sont là. Et ça ne fait pas peur, une fois que ça descend, ça dérange les gens. Est-ce que ma question c'était quel est votre point de vue sur ce que je viens d'exposer, c'est-à-dire, à partir du moment où les drapines se mettent en scène, est-ce que c'est pour se faire accepter plus, parce que dans ces cas-là, peut-être ça ne marche pas, ou je ne sais pas, vous avez quelque chose à vous dire?
Alors, je pense que l'intervention de Paul essayait de construire une continuité, enfin de pas couper justement le temps des drag queens, du temps qui est vécu par les personnes queer de manière individuelle, et que effectivement, voilà, c'est ce qu'on disait, le temps de la fête, il est comme permissif, donc du coup ces personnes-là vont être admirées, mais que après, voilà, dans la rue, il y a un certain, dans la rue, même pas que dans la rue, en fait partout, dans tous les espaces sociaux, il y a un certain nombre de violences. Voilà, qui subsiste et que on peut expérimenter de manière différente, voilà, tous les jours, en fait. Et c'est en fait la question de si la drag queen est progressive ou pas, elle n'est pas, je ne sais pas comment dire. En fait, on ne peut pas vraiment y répondre. Enfin, et elle n'est pas, elle va être. En fait, par exemple, le fait que l'émission RuPaul Drag Race ait autant d'audience, on peut dire que sur un temps peut-être extrêmement long, et s'il y a d'autres facteurs sociaux qui concordent, ça pourra comme peut-être, je sais pas, amoindrir la violence qui est subie par les personnes trans et non conformes dans le genre, mais c'est pas sûr, c'est pas, enfin, tout ça c'est des subcultures en fait, et les subcultures elles ont pas le pouvoir de produire en fait de l'acceptation, enfin elles ont pas de pouvoir sociaux. Ce qui va avoir du pouvoir social, c'est avec qui va récupérer les subcultures et qui va en faire quoi. Par exemple, on parlait tout à l'heure de voilà comment le punk a été récupéré et neutralisé par un phénomène d'extraction capitaliste. Là, c'est un peu ce qui se passe avec RuPaul, mais effectivement, à partir du moment où il y a ce mouvement d'extraction capitaliste, il y a aussi un phénomène de neutralisation. Donc c'est ça qui est compliqué, et on n'a pas de réponse proprement dite par rapport à ça, sauf que en fait aussi ces cultures-là, elles viennent ce qu'on, leur dimension politique, elles subissent parce que c'est des structures de survie en fait. Voilà, en fait les personnes qui sont concernées, elles n'ont pas vraiment le moyen non plus de faire autrement. Donc leur dimension politique, elle est là, c'est parce que c'est de la survie. Mais voilà, est-ce qu'elles ont le pouvoir de faire changer les choses ou de rendre les personnes plus plus tolérantes, enfin, c'est pas, en fait, c'est pas nous, vraiment le notre, je sais pas, notre angle.
En fait, je pense qu'il y a une question qui est légitime dans le rapport qu'on a eu sur plusieurs interventions sur la notion compétitive. Et je me demande sur le fait que, c'est, que les performeuses soient éliminées l'une après l'autre. Ça soit aussi une métaphore de cette violence qui est faite sur leur corps en dehors de, du stage. Hein.
Oui, après, moi, j'ai choisi. J'ai projeté ça parce que c'est un truc qui est hyper accessible, qui se trouve hyper facilement et du coup genre, qui servait un peu cette idée du postiche. Après, les critiques sur l'émission, sur ce type d'émission, elles sont nombreuses et elles sont toutes valables. C'est-à-dire que genre, le principe de mettre en compétition les performeuses, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait, voilà, qui s'inscrit dans une logique de production, de divertissement, et qui est aussi sujet à ce que Ariane décrit comme vous décrivez tout à l'heure comme de l'extraction capitaliste. Hein, c'est hyper. Oui, en fait, c'est très loin de comment on pense des nouvelles solidarités, comment on pense des solidarités queer, comment on travaille autour de moments. Enfin voilà, il y a un truc. Enfin, c'est une espèce de fête sans les gens, quoi. Sauf que ça passe à la télé, quoi. Et du coup. Du coup, oui, il y a des grosses critiques à avoir sur cette émission, même si, évidemment, ça porte à l'image, ça visibilise des performances qui sont parfois hyper émouvantes. Ça reste de la compétition et c'est discutable, même s'il y a plein d'angles de
En fait, je n'avais pas une critique de l'émission, j'ai noté qu'il y avait l'image des sapeurs, c'est une compétition avec quelqu'un qui gagne chaque semaine, les soins que je crois que c'est la même chose. J'en avais aussi des images qui ont montré. Philippe, toi, sur les deux gars qui sont face, et il n'y a pas exactement celui qui fait le plus. Il y a aussi là aussi une sorte de dimension compétitive. Le surenchère, quand tu dis, il va en rester qu'un. Donc, je mets bien comme ça dans ma tête.
Ouais, la culture des drag queens, c'est aussi des. C'est, oui, c'est des cultures de. Ces cultures de compétition où il y a des jurys qui vont venir voilà, noter et apprécier la performance. Donc c'est tout un système qui va pousser à la surenchère. Mais ça, c'est plutôt... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, c'est l'implantation d'une structure capitaliste et élitiste dans une culture de divertissement. Je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose d'un peu hybride, en fait. Les shows de RuPaul, c'est vraiment des univers... c'est pas des univers différents, mais c'est vraiment un... Je sais pas comment dire, un assemblage, en fait, de plusieurs logiques pour que ça passe. Enfin, aussi. Non, mais...
Je l'ai suivi pas mal de temps, cette émission, et je me suis tout le temps demandé si c'était une parodie de toutes ces émissions superstars, modèles, en Allemagne, à Etoux. Pour moi, c'était... Vu que c'est des parodies eux-mêmes, c'est aussi une parodie de toutes ces émissions. Je ne trouve pas que ce soit genré, mais elles se servent et se moquent aussi de ce genre d'émissions. Quand ils servent, je trouvais que c'était toujours extrêmement joué et j'ai jamais su si c'était une parodie d'émission.
Oui, c'est tout à fait juste. En fait, ça parodie les concours de mannequins, en fait. Il y a exactement les mêmes émissions sur qui sera couronné la prochaine mannequin superstar de tel ou tel endroit. Après, même si aussi on est en effet dans la parodie de quelque chose, ça produit quand même de la valeur. Ça produit de la notoriété, ça produit de l'argent aussi. Ça produit beaucoup d'argent. C'est une émission qui fera aussi beaucoup d'argent. Donc, il y a quand même production de valeur quelque part. Donc, oui, c'est de la parodie, mais en même temps, c'est le résultat, quelque part, aussi, et pas si parodique que ça.
Non,
non, bien sûr, non, c'est pas du, je le comprends pas du tout comme quelque chose de péjoratif, mais c'est, je pense que bien sûr qu'il y a une parodie de la forme, après, moi, j'ai l'impression que ça reste aussi articulé à des questions de produire de la valeur. Après, la question, c'est qui produit de la valeur, pourquoi, et là, ça va varier en fonction des personnes dont on parle, quoi.
Thank you.
Ensuite, merci à tous les intervenants ce matin. Je vais vous donner 3 minutes.